Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Voilà. C'est le jour que l'Éternel a fait, n'est-ce pas? C'est ce que dit le psaume. Chaque jour sont des jours que l'Éternel a fait pour nous. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Et ma crainte de Dieu augmente à chaque fois que je vois quelque chose qu'il fait. Et c'est vrai que dans la préparation d'un culte, ce qui est intéressant quelquefois, c'est que le président du culte, le prédicateur, que les chants, et on le fait régulièrement, puissent se concerter pour que le culte ait un fil conducteur. Et quelquefois, je pense que nous, les évangéliques, on aime aussi et que le Seigneur lui-même fasse des choses. Et c'est vrai qu'il y a des dimanches comme ça où, quand nous n'avons pas pris sur nous de nous concerter, Dieu le fait à notre place. Et donc ce chant qu'on vient de chanter introduit tellement bien la prédication d'aujourd'hui. Car la prédication d'aujourd'hui est sur justement le test de Deutéronome chapitre 6. Et c'est dans ce test qu'est sorti le schéma Israël. Écoute Israël. C'est Deutéronome chapitre 6 verset 4. Nous sommes au deuxième dimanche, n'est-ce pas? Sinon le premier après la Pâque. Jésus, selon le chronogramme de l'histoire, a été célébré dimanche dernier dans sa résurrection. C'était le dimanche de Pâques. Jésus-Christ vivant et souverain. Et les dernières paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc ça c'est l'une des dernières paroles fortes que le Seigneur laisse, qu'on appelle communément le grand ordre de mission du Seigneur Jésus. Et dans cet ordre de mission, on peut voir trois mouvements, pas forcément en termes de chronologie ni d'importance, mais il y a cette invitation à aller. Il dit aux disciples d'aller. D'aller faire quoi? D'aller faire des disciples dans tous les peuples. Donc on est déjà au-delà d'Israël, dans tous les peuples. Et de les baptiser. Cela sous-entend que ceux qui ont accepté ce message passent par cette confirmation publique et officielle de leur foi, qui est le baptême. Le baptême en ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on voit dans cet ordre une importance qui est liée au Deutéronome chapitre 6 verset 4, on verra tout à l'heure, parce que ce texte que nous avons chanté dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et là on a Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc l'affirmation que le Dieu trinitaire reste le Dieu un. On n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus le confirme là. Et le troisième mouvement du texte c'est: apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je pense que pour nous qui sommes des ressuscités par la résurrection du Christ, l'invitation pour nous, le commandement pour nous, c'est d'obéir à ses prescriptions, n'est-ce pas? C'est un commandement du Seigneur. Mais comme le dit l'Épître aux Romains, comment obéirons-nous si nous ne connaissons pas cette parole, n'est-ce pas? Et comme il est dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur annonce le message? Alors cette loi dont parle le Christ, c'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et nous en avons parlé les dimanches avant la Pâque. Cette nouvelle alliance qui est résumée encore par le Seigneur avant sa mort justement dans Matthieu 22, où il dit, Matthieu 22 verset 33 à 40, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. dans la bouche d'un chrétien du premier siècle, quand il dit toute la loi et les prophètes, il fait d'abord mention de tout l'Ancien Testament. Parce qu'eux, ils sont les premiers héritiers de l'Ancien Testament. Au premier siècle, le Nouveau Testament n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Jésus a eu son ministère, il est mort, il est ressuscité, mais les apôtres qui vont venir après lui, c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 17. Il dit, c'est à eux qu'incombe la tâche de transcrire ce qu'il a laissé comme enseignement. Et les apôtres vont le faire tout le premier siècle et l'Église, parce que on se rend compte que ces écrits des apôtres étaient un peu disséminés partout. Hein. Si vous lisez les lettres aux Éphésiens, aux Corinthiens, lettres aux Thessaloniciens, et l'Église, par le Saint-Esprit, a fait ce travail de rassembler tous ces écrits. Et on dit que ce canon, c'est ce rassemblement par la grâce de Dieu, est fini autour du 3e, 4e siècle. Mais Jésus, quand il dit, ça résume la loi et les prophètes, certes, il parle de l'Ancien Testament, mais déjà, il sait ce qui va venir. Il parle aussi de tout le Nouveau Testament. Donc, il parle de toute la Bible, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous montrer le lien fort qu'il y a entre cette proclamation de Jésus, cette nouvelle alliance et l'ancienne. Comment la nouvelle tire sa source de l'ancienne? Et là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans le Deutéronome. Hein. Vous savez, le Deutéronome, c'est le dernier livre des 5 livres de Moïse, n'est-ce pas? Et les 5, on appelle ça communément le Pentateuque. Hein. Penta qui veut dire 5 en grec. Hein. Donc, les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Et quand on lit ce texte, on est frappé parce que c'est un texte fort. Ça marque une étape très forte dans la vie du peuple d'Israël. Israël est fondé à peu près vers la fin du livre de Genèse avec Jacob qui fait cette lutte avec l'ange hein, dans une nuit parce qu'il sait que son nom ne lui porte pas chance et que malheureusement il a fait des choses dans son passé et qu'il connaissait le Dieu de ses pères mais qu'il n'avait pas cette relation intime avec le Dieu de ses pères. Et là cette nuit, il a cette visitation d'un ange et il lui dit « Là, j'ai tout compris, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. » Et il y a cette empoigne, souvent on dit lutte, mais ce n'est pas vraiment une lutte, parce qu'un homme peut-il lutter avec un ange? Ce n'est pas possible. Donc l'ange entre dans ce dialogue avec lui, il lui dit, lâche-moi, le matin va poindre, il faut que je disparaisse avant que l'aube n'arrive. Et à la fin, l'ange lui dit, d'accord, désormais tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Parce que Dieu a porté son regard sur toi pour que tu sois un exemple. Et c'est là que commence le peuple d'Israël. Et ensuite avec les 12 fils de Jacob qui forment les 12 tribus d'Israël. Et l'histoire va se continuer comme ça jusqu'à cet événement tragique de l'esclavage du peuple d'Israël. Esclavage en Égypte pendant 4 siècles, 400 ans. Et le texte dit que le peuple continuellement criait à Dieu au secours parce que leurs conditions devenaient de plus en plus difficiles et que les Égyptiens, ce grand empire de l'époque, avaient cette grandeur parce qu'ils avaient des esclaves et qu'ils mettaient à mal pour justement avoir cette grandeur. Et le texte dit que quand les Égyptiens ont vu que le peuple d'Israël, malgré tout ça, c'est un peuple qui tient, qui a une identité qui est forte et que les femmes, quand elles mettent au monde des enfants, c'est que des hommes. La plupart, ils disent attention, attention. Là, ils sont en train de bâtir une armée de garçons. Et quand tous ces jeunes seront en âge d'être adultes, ça peut être un risque pour nous. Ils peuvent se rebeller. Et donc, le pharaon prend une loi, un décret officiel et il dit désormais, je demande à toutes les sages-femmes de tout le royaume, de tout l'empire, quand elles iront assister les femmes juives, et que ça sera un garçon, qu'elles ne laissent pas vivre cet enfant garçon. Et les lois du pharaon sont, parce que pharaon s'appelle fils de Dieu, hein, donc pharaon est Dieu en Égypte, donc sa parole est une parole d'autorité. Et c'est ce qui se passe. Et ça crée encore un drame terrible dans le peuple d'Israël. Les mamans qui perdent des enfants. Et le cri du peuple continue à monter à Dieu. Et puis on a l'épisode de Moïse justement. Moïse qui va avoir cette grâce, parce que la sage-femme qui va venir, elle va être visitée aussi par Dieu. Et puis finalement, Moïse va échapper à cette mort. Et bien plus, il va être recueilli par l'une des princesses. Il va être élevé comme un prince. Mais comme on dit, ce que tu es crie plus fort que ce qu'on peut dire que tu es. Et Moïse savait d'où il était. Il savait qu'il était différent, mais il ne savait pas trop l'histoire. Jusqu'à ce que, voilà, le texte, si vous le lisez, il est beau, il est concret. Et puis, finalement, c'est Moïse que Dieu choisit pour sortir le peuple de l'Égypte, parce qu'il dit, c'en est trop, mon peuple a crié à moi. Ils ont compris, je vais les sortir de là, c'est toi que j'ai choisi, vas-y. Et on a tout ce dialogue de Moïse. Ouais, mais tu sais, je ne sais pas parler, je bégaye. Et puis, Pharaon actuel, tu sais qu'on a grandi ensemble, et voilà. Le Seigneur dit, ça, ce n'est pas un souci. Si c'est pour la parole, je t'ajoins Aaron. Aaron, il sait bien parler, donc tu y vas quand même. Donc finalement, il y va, et puis on connaît tout ce qui s'est passé. Et la Pâque juive vient de là. La Pessa vient de là. Parce que c'est la sortie du peuple d'Israël le jour de la grande libération. Le jour où Dieu nous a fait passer de l'autre côté. Il nous a fait passer de l'esclavage à la liberté. Et ce soir-là, alors que le cœur de Pharaon est endurci, qu'il y a eu déjà 9 plaies dramatiques, que Pharaon ne veut toujours pas laisser le peuple partir, Dieu dit, la dernière plaie, ça sera la mort. L'ange de la mort viendra. Il frappera tous les premiers-nés garçons de chaque famille des Égyptiens. Pour que vous puissiez échapper à Israël, vous allez tuer un agneau. Il y a tout un rituel qui est fait. Et vous allez passer le sang de cet agneau sur le linteau de la porte pour que quand l'ange de l'Éternel frappera cette nuit-là, il voie la marque et qu'il fasse échapper tous les premiers-nés d'Israël. Et c'est de là que vient la Pâque. Et c'est devenu une fête en mémoire de ce qui s'est passé le jour où Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Et puis il y a l'Exode, avec des événements très forts, n'est-ce pas ? La traversée de la mer, avec cet épisode que les scientifiques avouent que ça s'est passé, mais pas comme le récit biblique, parce que pour eux, comme Moïse était très instruit, qu'il était un prince d'Égypte, donc il savait, parce que les princes d'Égypte étaient instruits dans toute la science, et le texte même dit que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptes. Donc il connaissait aussi les sciences de ce qu'on appelle les marées basses et les marées hautes. Et la question qu'on leur pose, on dit, mais d'accord. Déjà, ce n'est pas Moïse qui a choisi le moment. Donc, même s'il savait les marées basses et les marées hautes, comment aurait-il pu savoir à quel jour ils allaient sortir? Puisque ce n'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui lui dit sois à ces jours-là. Donc, à chaque fois que vous, les scientifiques, vous êtes confrontés à une réalité historique, vous voulez forcément enlever ce qu'on appelle tout ce qui est thaumaturge, tout ce qui est miracle. Et vous voulez l'expliquer par des faits scientifiques. Mais la science, qui la donne? C'est Dieu. Dieu, c'est le premier scientifique. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Les lois de la physique sont de lui. Donc finalement, vous êtes en train de reconnaître vous-même que Dieu, bah, c'est lui qui l'a fait. Si on s'en tient à votre version, ça veut dire que Dieu est tellement fort qu'il donne à Moïse d'arriver là avec le peuple au moment de la marée basse. C'est incroyable quand même que Dieu puisse faire coïncider une marée basse et l'arrivée du peuple. Et qu'ensuite, lorsque le peuple traverse, il fasse coïncider la marée haute et que les Égyptiens soient engloutis. On dit oui, mais on ne trouve pas la trace de cet événement dans les chroniques d'Égypte. Mais c'est évident. Tous les grands empires ne laissent jamais la trace de leurs grandes défaites dans leurs années. C'est connu. Les historiens le savent. Mais on trouve des traces dans bien d'autres récits. Bref, il y a eu cet événement fort. Le peuple sort, il y a l'Exode, Dieu donne la loi. La loi, c'est dans quel chapitre d'Exode? Chapitre 20, les frères. Ça, c'est des textes clés. Ok? C'est des textes que nous, chrétiens, on ne doit pas jouer avec, on doit connaître. Exode 20, c'est là qu'il y a les 10 commandements que Moïse a reçus de Dieu directement. N'est-ce pas? Lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï. Et puis, vous savez, l'épisode le plus dramatique, c'est lorsque Moïse, pendant ses jours, est en train de jeûner pour que Dieu finalise son alliance avec son peuple, qu'il donne ses tablettes. Dieu dit, Moïse, alerte rouge, descends. Le peuple est en train de faire n'importe quoi. dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il dit, descends, ils sont en train de faire n'importe quoi. Pendant que Moïse était là-bas, ça durait des jours. Le peuple dit, mais on est perdu. Peut-être que Moïse est mort, on n'en sait rien. Et là, on est sans Dieu, sans leader, on est foutu. Mais on ne va pas rester sans rien faire, ce n'est pas possible. On va se faire un Dieu. Non, mais en fait, on sait qu'on ne doit pas se faire un Dieu. Mais quand même, on a besoin de quelque chose qui nous rappelle Dieu. Aaron, aide-nous à faire quelque chose. Aaron résiste, mais pas longtemps. Parce que le peuple est dans tous ses états, ça pleure, ça crie. Ça... Et finalement, ils ont cette intelligence que nous avons en tant qu'hommes. On a trouvé. Eureka, on a trouvé. En fait, on va faire un veau d'or. Parce que l'or est le métal le plus précieux. Donc, représenter son Dieu avec le métal le plus précieux, voilà, c'est digne quelque part. Et tout le monde emporte l'or qu'ils ont pris en Égypte. Et ils le fondent et ils font le veau d'or. Et ils commencent à adorer le veau d'or. Quand Moïse descend, qu'il voit ça, le texte dit que Moïse brise la tablette. Il déchire ses vêtements. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et c'est un épidrose déchirant. C'est d'autant plus dramatique qu'il va avoir des morts. Parce que Dieu va juger sévèrement tous les acteurs de cet événement-là. De peu, il va épargner Aaron. De peu. Parce que Aaron va dire, j'ai pas eu le choix. Alors Dieu, c'est comme si on a un processus de conclure un accord et que l'accord s'arrête parce qu'il y a eu un incident. Donc l'accord s'est arrêté. Les tablettes ont été brisées. Et donc, Moïse va reprendre à nouveau. Un autre cycle de 40 jours, de 40 nuits de jeûne et prière. Pour retrouver encore la loi de l'Éternel. Et donc, dans le Deutéronome, Moïse explique tout ça. Les premiers chapitres, Moïse réexplique ce qui s'est passé. Il explique comment les choses se sont passées, comment les événements se sont passés, et qu'est-ce que Dieu a fait. Et au chapitre 5, il dit, finalement, quand tout ça s'est passé, vous savez que Dieu a eu une manifestation sur le mont Sinaï. Dieu vous a convoqué, ce qu'on appelle la convocation solennelle du peuple de Dieu, devant la montagne. Une montagne tout en feu, avec des bruits assourdissants et des tremblements. Et le peuple a dit, on ne va pas aller plus loin, Moïse, parce que Dieu va nous tuer. On sait qu'on a fait des choses et qu'on n'est pas pu pour nous approcher. S'il te plaît, va à notre nom, va rencontrer Dieu pour nous. Et chapitre 5 finit en disant que Dieu a accepté que le peuple dise qu'il veut un médiateur. Et Dieu dit dans le chapitre 5, si tout le temps leur cœur était comme ça, c'était bien. Mais va et redis-leur la loi que je t'ai prescrite. Et là, ça commence à partir du chapitre 6, où il commence à prescrire les lois qu'il a dites au peuple. C'est un long texte, mais j'aime le lire. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 1. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ce sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute. Les veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans le pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par ses mains à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux. C'est Dieu des peuples qui vous entoureront. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main de l'Éternel. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a données. Tu feras ce que l'Éternel juge juste et bon, afin que tu sois heureux et que tu parviennes à prendre possession du bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes ancêtres, en chassant tous tes ennemis comme il a promis. Verset 20. Lorsque plus tard, vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux qui sont de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par ses mains à nos ancêtres. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ses lois et de le craindre ainsi afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Le verset 2 dit en substance que tu craignes l'Éternel. Que tu craignes l'Éternel. Aujourd'hui, on traduit ce mot par que tu respectes l'Éternel. Non, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas le respect. Parce qu'on dit que dans la crainte, il y a quelque chose de négatif. Il y a la peur. Et quand on a peur, ça veut dire qu'on n'adhère pas volontairement. Dans l'expression de ce mot, la crainte de Dieu, en fait, c'est la vraie foi. La vraie foi, c'est une profonde vénération, un profond sentiment que celui qu'on craint est tout puissant, mais que sa toute puissance n'est pas là pour nous faire du mal, mais qu'elle est plutôt là pour nous protéger. Donc on reconnaît quelqu'un qui est tout puissant, mais qu'en fait qui est bien disposé pour nous. Finalement, c'est un extrême respect qu'on doit à l'Éternel. Et c'est plutôt la crainte de lui déplaire qui doit nous conduire. On a plutôt peur de ne pas lui faire plaisir. C'est cette peur qui doit nous animer dans notre crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur qui va nous taper, qui va nous faire du mal. C'est la peur de ne pas être vraiment reconnaissant à la hauteur de ce qu'il fait pour nous. Et c'est ce qu'il dit à Israël. Et c'est ce qu'il dit à la fin de ce chapitre. Il dit, dites à vos enfants ce qui s'est passé. Comme ça, ils comprendront que je ne vous impose pas une loi comme un tyran, mais que ce que je vous dis là, c'est juste. Parce que si vous le faites, vous êtes reconnaissant de ce que j'ai fait pour vous, mais bien plus, vous aurez une vie paisible et de bonheur. C'est une crainte qui entraîne la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur moi et l'obéissance à ses commandements. Et puis c'est le gage d'une vie droite, n'est-ce pas? C'est ça quand il dit que tu craignes l'Éternel. Un chrétien, une chrétienne doit craindre Dieu. Ce n'est pas juste un respect, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu me pousse à être sage, à faire les choses avec soin, à faire les choses quand ça concerne, en tout cas, toute ma vie concerne Dieu, à faire les choses avec circonspection. Parce que ce Dieu-là, il sait tout, il connaît tout. Il n'est pas là d'abord pour me punir. Il est là pour me montrer la voie et le chemin. Donc si je suis attentif, c'est moi qui gagne dans l'affaire. Si je suis obéissant, c'est moi qui bénéficie dans cette affaire-là. Si je ne le suis pas, c'est moi qui ai tout à perdre. Et ensuite, quand on descend au verset 4 jusqu'au verset 9, on a le Shema Israël. Écoute Israël. L'écoute ici, c'est pas juste entend, c'est prête bien l'oreille. Et le Seigneur aime bien ça. Et Jésus a appris cette parole dans le Nouveau Testament. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hein, c'est une expression qu'il aime bien. Ça veut dire que c'est une écoute attentive. Une écoute de quelqu'un qui veut écouter, mais pour apprendre. Mais pas pour apprendre, pour remplir sa tête, pour apprendre, pour diriger sa vie. Pour orienter ses choix. Pour se positionner dans la société. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. On a souvent plusieurs traductions. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel seul, il est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul. Et c'est le deuxième pour le premier commandement. C'est le quatrième des commandements dans les 10. Vous n'avez qu'à ouvrir vos Bibles dans Exode 20 et vous verrez. Exode 20. Quelqu'un a trouvé? C'est oui, je veux qu'on lise le texte exact, sinon tu as raison, j'ai trouvé bien, qu'on trouve le texte exact. C'est bon, quelqu'un l'a trouvé ou pas? Il y a plein de Bibles qui sont ouvertes. Et... Non? C'est pas Exode 20? Oui? Vas-y, lis. Tu as trouvé? Oui, mais lis pour nous. Mais en fait, dans l'expression « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », c'est de dire, en fait, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres dieux, ce n'est pas des dieux, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Jésus va le reprendre, j'en reparlerai plus tard, Jésus va le reprendre dans Matthieu chapitre 22, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette parole est une parole forte. C'est de là qu'on a tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça vient de là. Donc ça vient de milliers d'années avant que Jésus ne le reprenne. Et Jésus dit, en fait, ce commandement là c'est le principal. C'est pas le seul, mais il dit, si tu veux lire tous les autres commandements, en fait, la clé de lecture de tous les autres commandements, c'est celui-là. C'est comme si tu as une maison et que pour y rentrer, tu as une porte principale. Et Jésus va le dire d'une autre façon. Il dit, celui qui ne rentre pas par la porte principale, soit il a perdu la clé, mais si c'est pas lui le propriétaire, ça veut dire que c'est un voleur. Sinon, une maison, on rentre par la porte principale. Et il dit, justement, pour entrer dans la pensée de Dieu, dans les commandements de Dieu, c'est ce commandement qui est la clé et qui est la porte principale. Et Jésus va allier à celui-là un deuxième qui lui est dans les Lévitiques. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, les deux en fait sont de la même autorité. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et Jésus va aller plus loin parce que dans la pensée du juif israélite, le prochain, c'est son compatriote juif. C'est pour ça que Jésus va avoir la parabole du bon samaritain pour expliquer aux juifs qu'en fait, le prochain, c'est pas que ton compatriote. Ton prochain, c'est même ton ennemi. Il dit, même ton ennemi est ton prochain. Ouh là là, on peut pas faire ça, Jésus. On peut pas faire ça. Encore, tu nous dis, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas israélite, ça va encore. Mon ennemi, c'est mon prochain. C'est compliqué. Et c'est là qu'on a la première mention de l'amour. C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la force. Certains ont fait plein de commentaires dessus, et à raison, mais il faut simplement comprendre par ces tripes invitations qu'en fait, c'est tout l'être, c'est toute ta personne qui est invitée à aimer Dieu, toute ta personne. Ton intelligence, ton émotion, ta volonté, toute ta personne, toute ta personne. Est-ce que c'est toujours le cas pour nous? Quelquefois, on chante avec nos émotions, notre amour de Dieu. Et notre raison dit, celle-là, je veux un peu la garder parce que notre raison, c'est elle qui nous sert à faire des choix. Et comme on aime être toujours un peu maître de nous-mêmes, celle-là, on la garde pour nous. On ne la soumet pas toujours à Dieu. Mais quand on est dans des moments de louange, nos émotions nous emportent et on a des bons moments de louange. Est-ce qu'on reprochait à un moment donné, et pourquoi il y a eu des réveils? C'est parce qu'à un moment donné, on dit, mais l'église, elle vient, chante, on sent l'émotion, on sent la ferveur, mais ça ne change rien dans la vie des gens. Parce que l'intelligence qui nous permet de faire des choix et de dire, je veux marcher selon ce commandement-là, on la garde encore captive. C'est pour ça qu'au verset 10, il dit que cette loi reste gravée dans ton cœur. Pourquoi il parle du cœur? C'est-à-dire que c'est plus profond. Ça va au-delà du sentiment. C'est une volonté d'accepter, d'avoir cette contrainte extérieure de Dieu. Je l'accepte. C'est pas juste une tradition que je suis. Mais comme c'est dans mon cœur, c'est-à-dire j'ai accepté que cette loi fasse partie de moi. Le cœur, c'est le centre de l'être humain. Donc si j'accepte que cette loi soit gravée dans mon cœur, j'accepte que cette loi désormais fait partie de mon identité. Je ne peux pas me définir en dehors de cette loi. C'est pas possible. Parce qu'elle fait partie de moi. Et c'est ça que le texte dit. C'est comme quand on dit j'ai un corps et j'ai une âme. De vous à moi, est-ce que vous voyez mon âme là où je suis? Mais pourtant elle est bien là. Est-ce que je peux dire mon âme va-t'en? Je ne peux pas. C'est quand je serai parti auprès du Seigneur que les deux vont se séparer. N'est-ce pas? Et c'est la même image quand la loi est gravée dans nos cœurs. Cette loi, elle est là. Elle fait partie de toi. Elle est inscrite en toi. Dieu l'a gravée en toi. En tout cas, si tu as donné ta vie à Dieu, il a gravé en toi. Comme Dieu a gravé les 10 commandements sur la tablette qu'il a donnée à Moïse. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est une autre question. Parce qu'elle est en toi. Et pour la nouvelle alliance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait en nous. Lorsque nous avons compris notre état de pécheur et que nous avons compris que le salut ne vient que par Jésus-Christ et que Dieu nous donne cette loi d'amour et de liberté au travers de la Bible et que nous avons dit, franchement, c'est une bénédiction que de marcher par là, l'Esprit de Dieu a gravé la loi de Dieu dans mon cœur. Et quand nous continuons de lire la Bible, d'apprendre la Bible, en fait, elle ne fait que enrichir ce que Dieu a déjà gravé en nous. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi obéir à ses commandements. L'amour de Dieu n'est pas qu'émotion, n'est pas que sentiment. L'amour de Dieu est raison, est volonté. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait quoi? Qui garde mes commandements. Il dit, celui qui ne garde pas mes commandements, il peut tout dire, il peut faire tous ses discours, tous ses beaux poèmes, que ce soit à l'église, que ce soit sur le Seigneur, je t'aime, je te bénis, tu es l'amour de ma vie. Si ça ne se traduit pas dans l'obéissance au commandement de Dieu, on est encore loin du compte. Il faut que Dieu nous aide, frères et sœurs. Plus on prend de l'âge dans la foi chrétienne, et moi, personnellement, j'ai l'impression que ces versets deviennent un peu dilués. Plus on prend de l'âge dans la foi chrétienne, est-ce que c'est inconscient? J'en sais rien. Mais je constate pour moi-même. que la parole de Dieu n'a plus le poids qu'elle devait avoir. Parce que peut-être on est convaincu qu'on obéit déjà. Souvenez du jeune riche qui est venu voir Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, mais d'abord il lui dit, mais il faut que tu respectes la loi. Il dit, mais je fais tout ça. Il dit, je fais tout ça. Et Jésus ne dit pas qu'il ment. Donc ça veut dire que c'est vrai. Et Jésus dit, mais si tu fais tout ça, c'est très bien. Vas-y. Il dit, non. Je sais. Et donc j'ai l'impression que parfois, les années chrétiennes nous rendent insensibles à la crainte de Dieu. Parce qu'on croit qu'on le vit alors qu'elle doit grandir dans nos cœurs. Elle ne doit pas stagner. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a arrêté peut-être notre croissance à un moment donné de notre vie chrétienne. Et qu'on est resté à ce niveau-là des années plus tard. Par rapport à l'obéissance à la crainte de Dieu. Cette crainte doit nous conduire à être toujours comme des enfants devant les paroles de Dieu. Quand Dieu dit de le vivre, ces paroles, de les vivre. C'est pour ça qu'il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Si tu dois inculquer quelque chose, ça veut dire que toi-même, tu as passé l'épreuve, n'est-ce pas? Inculquer, ce n'est pas juste donner l'information aux enfants. C'est de faire en sorte que ça rentre en eux. Mais comment une parole peut rentrer un enfant s'il ne le voit pas vivre par le parent? S'il ne le voit pas appliquer par le parent? Comment je peux dire à mon fils, à chaque fois qu'il mange, prie le Seigneur, si moi, quand je mange, je ne prie pas devant lui? C'est facile de le dire. T'as prié avant de manger? Il va le faire. Mais combien de fois il me voit prier avant de manger, moi? Pour prendre que cet exemple-là. T'as prié avant de dormir? Combien de fois je prie avec lui avant qu'il ne dorme? Combien de fois j'ai prié avec lui avant qu'il ne dorme? Est-ce qu'on peut s'étonner plus tard si nos enfants perdent? Pas quand on a tout fait, mais quand on peut se remettre en cause par rapport à ce qu'on n'a pas pu faire. Quand on a tout fait, c'est une autre affaire. Et je ne suis pas là pour juger. Parce que je sais que sur cette question, c'est trop délicat. Et il y a beaucoup d'autres situations qui rentrent en ligne de compte. Mais je suis là juste pour nous encourager ce matin. Il dit, tu l'inculqueras. Ce commandement doit être un marqueur qui marque ce que tu es. C'est ce qu'il dit à Israël. Mais il semble que les Juifs, ils ont bien compris. Mais en même temps, ils ont fait ça plus en image qu'en compréhension. Parce que le Juif, en fait, il a beaucoup de signes extérieurs pour montrer qu'ils ont appliqué littéralement ce test. Vous voyez les petits bandeaux qu'ils ont quand ils sont dans leur truc noir, c'est ce texte-là. Et quand tu vas chez un juif, si tu rentres chez lui sur son ponteau ou sur le linteau de la porte, il l'a toujours inversé. Comme quand tu vas devant le temple, devant la synagogue qui est là, il y a un verset au-dessus. C'est de là que c'est tiré. Mais c'est pour ça que Jérémie, le prophète Jérémie, va dire, mais c'est pas ça. C'est dans vos cœurs que ça doit être gravé. C'est en vous que ça doit être gravé. Oui, c'est bien à l'extérieur, mais il faut aussi que ce soit à l'intérieur. Et puis au verset 12, il dit, Dieu va te bénir. Et c'est une vraie parole de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de la malédiction, bien-aimés. On n'est pas dans l'évangile de la prospérité, parce que c'est un extrême. Mais nous sommes quand même des enfants bénis. Dieu veut nous bénir. C'est ce que le texte dit. Dieu dit, dans ce texte même, il dit, c'est pour que vous soyez heureux. Donc la bénédiction vient de Dieu. Dieu veut que nous soyons bénis. Donc il dit, quand je vais te bénir, Israël, garde-toi. Il dit, quand tu vas manger et te rassasier. Donc c'est le signe de la satiété. Ça veut dire, quel que soit ton niveau social, chacun sera quand même dans une certaine aisance. Quel que soit son niveau social. Il dit, quand ça va arriver, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce que la prospérité matérielle, quelquefois, nous conduit à oublier l'Éternel. Et quand on parle de la prospérité, on voit tout de suite une richesse abondante. Non, c'est un travail que Dieu te donne et que si tu n'y prends garde, qui va déranger ton planning, qui va déranger tes habitudes, qui va déranger ton engagement chrétien. Garde-toi. Est-ce que c'est juste quand je suis au chômage d'être pleinement investi dans l'église et quand Dieu me donne un travail, de ne plus jamais être là? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste un programme, c'est pas juste une question de programme, frères et sœurs. C'est pas juste une question de planning. C'est une question quelles sont tes priorités. Après, on a des situations diverses et pas de ça qu'on parle. Moi, je dis toujours, et moi le premier, j'aime pas qu'on me culpabilise. Donc, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit. Je veux juste que Dieu nous aide à bien progresser dans notre marche chrétienne et que les bénédictions de Dieu ne soient pas finalement quelque chose qui entrave notre progrès avec le Seigneur et notre implication dans l'œuvre de Dieu. Il dit, garde-toi quand tu seras rassasié. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Qui t'a fait sortir de l'Égypte? Qui t'a fait sortir de la galère? Qui t'a fait sortir d'une situation compliquée? Qui t'a fait sortir du cheminement scolaire pour te faire entrer dans la vie active? Qui t'a fait sortir d'un processus professionnel un peu compliqué qui t'a ramené vers un autre processus plus intéressant? Et qui t'a fait devenir parent? Plein de bénédictions. Quand il te le fera, garde-toi de l'oublier. Pour Israël, ça paraissait banal de dire ça, parce qu'ils n'avaient même pas encore péché. Mais pourquoi Dieu dit ça déjà? Parce que Dieu nous connaît. Parce qu'il est le maître de l'histoire, donc il sait d'avance. Donc il nous prévient, il nous avertit. Parce que l'Éternel ne tolère aucun rival. C'est vrai qu'on a traduit généralement car notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais le mot français jaloux est un mot négatif. Il y a un aspect négatif dans la jalousie. C'est comme si quelque part la jalousie n'est pas légitime et que c'est égoïste et qu'on veut garder quelqu'un pour soi. C'est pas ça. Donc c'est pour ça que les nouvelles traductions traduisent car notre Dieu n'aime pas les rivales. Parce qu'il n'a pas de rival. Non mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc quand tu dis tu vas adorer un autre Dieu, en fait tu l'insultes. Parce que l'autre que tu appelles Dieu n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il n'accepte pas les rivales. Parce qu'il n'a pas de rivales. Souvenez-vous du verset 4. Car l'Éternel notre Dieu est un, il est seul. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour, il tient à la relation exclusive avec ses enfants. Est-ce que c'est mauvais d'aimer quelqu'un au point de dire je vais être avec toi tous les jours? Ah non, tu me fatigues avec ton amour de tous les jours. Franchement, si quelqu'un fait ça, je ne sais pas quel est son parcours, mais quand quelqu'un veut t'aimer, te porter, t'encourager, te soutenir, être là pour toi dans les moments les plus difficiles, et qui ne ménage aucun effort parce que le texte lui dit il ne sommeille ni ne dort et qu'il est là pour toi. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Au verset 16, il dit vous ne forcerez pas la main de l'Éternel. Il dit souvenez-vous, à Massa, qu'est-ce que vous avez fait? Dieu a tout fait, mais finalement vous êtes arrivé à ce point de ouais, quand même, Dieu nous avait sorti, on souffre, on mange pas, on a soif, Moïse, on veut boire. Oh, Dieu dit quand même, avec tout ce que j'ai fait, ils ne peuvent pas attendre encore peut-être une journée parce que Dieu avait programmé ce qu'il allait faire. Ils ont forcé la main de Dieu, ils ont forcé la main de Moïse et Dieu finalement a accédé, mais avec une punition à la clé. Et c'est pour ça qu'il dit. Souvenez-vous, vous ne forcerez plus jamais la main de Dieu comme vous avez fait à Massa. Et que quelquefois, pourquoi on n'aime pas trop l'évangile de la prospérité? Parce que ça ressemble un peu à ça. Seigneur, tu es obligé de me le donner. Donne-le-moi là, maintenant. Tu l'as dit dans ta parole. Dieu est obligé. Parce que quelquefois, c'est littéralement ça dans l'évangile de la prospérité. Parce qu'on dit, mets toutes les promesses de Dieu devant toi et prie avec les promesses. Tu as dit, je ne serai pas à la queue, mais toujours à la tête. Mais en même temps, tu oublies que ce verset est un verset qui est donné dans un monde agricole. Où Dieu dit, quand tu vas sortir le matin, quand tu vas travailler, quand tu vas bêcher, quand tu vas semer, quand tu vas faire tout ce qui est nécessaire comme un bon agriculteur le fait, le reste, je m'en charge. Parce que la pluie, tu ne peux rien y faire. Le temps, tu ne peux rien y faire. Regardez tous les vignerons quand il y a eu la grêle. Ils étaient bien toute une année d'investissement gâchée en une seule journée, de grêlons qui tombent. C'est terrible pour un agriculteur. Dieu dit, moi je prends sur moi de te préserver de ces choses. C'est pour ça qu'il dit, tu ne seras pas à la queue, mais à la tête, mais à condition que tu travailles. Bah oui. Ne forcez pas la main à Dieu, frères et sœurs. C'est légitime de rappeler les promesses à Dieu. Il nous le demande. Mais forcer la main à Dieu, il faut être costaud pour faire ça quand même. Tout en sachant ce que ça peut coûter. Et le verset, c'est là qui m'a plu quand je faisais cette méditation préparée, verset 18, afin que tu sois heureux. Marchez avec Dieu, obéis à la parole de Dieu, vivez avec le commandement de Dieu. La promesse qui est derrière, c'est d'être heureux. Et c'est vrai que je traversais une période un peu, voilà, et ce test en le préparant, wow, le verset 18, c'était un torrent d'eau qui m'abreuvait pour que tu sois heureux. Même si on ne voit pas des manifestations extraordinaires de Dieu, si on marche selon la parole de Dieu, la garantie c'est qu'on est heureux, frères et sœurs. Et il termine en disant, et donc nous serons justes si nous obéissons au commandement de Dieu. Ça serait qu'une juste affaire que de répondre à Dieu, de répondre à l'amour de Dieu en obéissant à sa parole. Nous serons justes de faire ça. Nous serons juste de faire ça. Et Jésus va reprendre ça dans l'évangile de Matthieu. Tout ce que j'ai dit là, Jésus va le reprendre. Il va le bonifier pour chacun d'entre nous. Que Dieu puisse nous aider. Que ce dimanche, qui suit le dimanche de Pâques, alors que nous avons célébré le ressuscité, que nous puissions nous remettre debout. Sous l'autorité de Dieu aimant et de dire, oui, il est juste d'obéir à tes commandements. C'est une juste réponse pour tout ce que tu fais par nous. Tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas faire encore, il est juste d'obéir à tes commandements. Et quand on dit ça, ça vaut la peine quelquefois de s'asseoir et de faire la part des choses. Quelles sont les valeurs, les principes que j'ai érigés et qui finalement ne sont pas vraiment les commandements de Dieu, mais qui sont quand même un mélange de ce que moi j'aime et de ce que Dieu aime. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. La tiédeur, le mélange, Dieu n'aime pas. Les commandements de Dieu parfois sont très clairs. Il ne veut pas de l'à peu près. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu peux juste afficher la dernière et je pense que c'est ça que je veux que nous gardions à l'esprit. L'amour pour le Seigneur est indissociable de l'obéissance à sa parole. Si nous aimons Dieu, devons lui demander de nous faire la grâce d'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole. Prions. Seigneur, nous te bénissons en Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu nous donnes et que nous avons célébrée à la Pâque. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons eu le privilège d'être rencontré par Dieu qui nous a permis de comprendre la Bible et de réorienter nos vies, de nous sortir de la boue de cette mauvaise orientation qui nous conduisait dans ce chemin vers l'enfer et de nous réorienter sur le chemin du paradis. C'est une grâce que tu nous as faite parce que nous n'étions pas plus méritants que les autres hommes, que les autres femmes, mais tu l'as faite et nous voulons juste dire merci Seigneur. Maintenant que tu nous as réorientés, aide-nous, Seigneur, à rester sur ce chemin. Nous voulons manifester notre amour au travers de beaucoup de domaines, mais principalement au travers de l'obéissance à ta parole. La Bible est ta parole. Aide-nous à la chérir, à l'aimer, à la connaître, à la lire, à apprendre, mais bien plus à l'appliquer dans nos vies et à continuer de l'appliquer. Au nom de Jésus.